Om Paldensa Venamar in Poce Dagi Ce Urbe Medenciulla Cangin Cempe Gone Gesunte Cusun Cunchin Giun Sel tu sel sangye che dong so gi cho nam la Jan chun ba du da ni kyam su chi Da ni jin so gi pe se nam gi Jo la pen chi sangye rum ba e sho Sangye Chedong Sogi Chonam La Jain Chum Padu Dani Kyam So Chi Dagin Jin Sogi Pe Senam Gi Jola Ben Chi Sangye Rumba E Sho Sangye Chedong Sogi Chonam La Jang Chum Padu Dani Kyam Su Chi Dagin Jin Sogi Pe Senam Gi Jola Ben Chi Sangye Rumba E Sho
Donc tout d'abord, on place le corps en méditation avec une colonne vertébrale droite. Essayez, dans la mesure du possible, de prendre une posture correcte. Pensez qu'avec la tête, vous poussez le plafond. Et essayez, lorsque cette posture vous est à peu près confortable, de sentir vraiment une stabilité s'installer, à la fois dans le corps et dans l'esprit. On médite les yeux ouverts. Et pour les personnes qui ont l'habitude de méditer, si votre esprit n'est pas distrait ce soir, s'il est clair, conscient, lucide, essayez d'être dans cet aspect connaissance, cet aspect conscience, luminosité de l'esprit, qui reconnaît tous les phénomènes extérieurs et intérieurs qui s'élèvent et qui traversent l'esprit. Essayez de reconnaître leur présence dès qu'ils apparaissent. Ne retenez rien, ne rejetez rien. Si vous sentez que l'esprit solidifie les phénomènes, saisit les phénomènes, alors voyez immédiatement la nature de ces phénomènes selon leurs trois caractéristiques, c'est-à-dire qu'ils sont impermanents, qu'ils sont dépourvus d'existence propre, et que si on les solidifie, si on les fixe, eh bien immédiatement, il y a apparition de dukkha, l'esprit est perturbé. Pour les personnes qui méditent depuis peu de temps ou qui découvrent la méditation, quatre points à pratiquer pendant la session. Premier point consiste à placer notre esprit, notre attention sur un support de méditation, par exemple la respiration. Dans ce cas-là, on est conscient que l'on inspire, conscient que l'on expire, sans modifier le rythme respiratoire. On prend simplement conscience de cette respiration. Au bout de quelques secondes, notre esprit va avoir tendance à se porter sur une pensée, sur une perception, une sensation, un facteur mental. Ce qui nous permet de savoir ce qui se passe, si notre esprit reste conscient du support ou si il se porte sur un autre phénomène, c'est la vigilance. Donc le deuxième point, c'est d'installer la vigilance. Quand nous restons conscients du support tout en étant conscients des autres phénomènes, sensations, perceptions, pensées ou facteurs mentaux, il n'y a pas de distraction. Il y a distraction lorsque nous perdons conscience du support. Et c'est la vigilance qui va nous permettre de savoir cela. Troisième point, lorsque nous prenons conscience que nous avons perdu le support, que nous sommes donc dans la distraction, alors nous reconnaissons, nous identifions l'objet de distraction. Sans l'analyser, sans porter de jugement sur soi-même par le fait d'être distrait, mais simplement on reconnaît que, par exemple, une pensée est en train de nous distraire. Et on lâche à ce moment-là l'objet de distraction. Le lâcher ne veut pas dire faire en sorte qu'il disparaisse. Au contraire, on reste détendu en sa présence, donc il y a l'esprit qui accepte la présence de cet élément. Mais on le lâche, c'est-à-dire qu'on ne lui accorde plus l'attention qu'on lui accordait. Et enfin, quatrième point, lorsqu'on a lâché cet élément, alors on replace son esprit sur le support. Je suis conscient que j'inspire, conscient que j'expire, et on applique ces quatre points. Alors, pour l'enseignement, on va reprendre le texte d'Ajahn Chah, tout apparaît, tout disparaît. Pour les personnes qui ne savent pas qui était Ajahn Chah, Ajahn Chah était un maître thaïlandais, mort en 1992, c'est ça, en 1992, et qui a revivifié l'école des moines de la forêt en Thaïlande, mais partout dans le monde. Maintenant, il y a des centres et des monastères de cette école un peu partout dans le monde. Et pourquoi je m'appuie sur un texte d'Ajahn Chah? Parce que j'aime beaucoup cet auteur, ce maître thaïlandais. Ses enseignements, ses instructions sont extrêmement directes sur la nature de l'esprit. Il peut avoir beaucoup d'humour dans ses enseignements. Et puis, une chose agréable, c'est qu'il fait part de ses propres difficultés lors de son cheminement spirituel, ce qui peut nous rassurer si toutefois nous-mêmes nous rencontrons quelques difficultés, ce qui est donc tout à fait normal. Et ce soir, le chapitre s'intitule « Voir les choses telles qu'elles sont réellement » et sous-entendu, non pas telles qu'on voudrait qu'elles soient. Et Ajahn Chah commence en disant « Le Bouddha a enseigné qu'il faut observer tout ce qui se présente. » Donc c'est un point qui me semble vraiment important, parce que dans notre pratique méditative, on doit observer absolument tout ce qui s'élève dans l'esprit. Tout, absolument tout. Ne rien trier. Ne pas garder ce qui nous semble positif, correct ou agréable, et rejeter ce qui nous semble, ce qui nous paraît désagréable, négatif et pas très correct. Et pourtant, nous avons un peu tendance à fonctionner toujours de cette façon-là, c'est-à-dire que des pensées ou des facteurs mentaux que l'on considère comme positifs, eh bien, on va plutôt les observer, voire les étudier, les développer au besoin. Et puis dès qu'il y a des facteurs mentaux à tendance un peu négative qui s'élèvent dans notre esprit, on a tendance à les rejeter, à les mettre de côté. Pourquoi ? Parce que en général, on les craint, parce que sous leur emprise, sous leur influence, on peut agir de façon négative et on boit la tasse, quoi. Donc, comme on cherche à se protéger, on les met de côté. Et en fait, on doit absolument tout observer. Et comme disent les textes, tout observer comme si tout avait la même saveur. Donc, ne pas porter de jugement sur ce qui s'élève dans notre esprit. Même les facteurs perturbateurs. Si nous avons de l'irritation, de la jalousie, de l'indifférence, de l'attachement, etc. Même ces facteurs perturbateurs, quand ils s'élèvent dans l'esprit, il faut en profiter pour bien les observer, donc accepter leur présence, parce que si on n'accepte pas leur présence, on ne va pas pouvoir les observer et en chercher leur nature fondamentale. Donc, je dirais en d'autres termes qu'il faut entrer en amitié avec ces facteurs perturbateurs. Et cela me rappelle que lorsqu'on est entré en retraite de longue durée, il y avait une femme lama qui, alors qu'on se saluait, nous a dit « Ne craignez pas les facteurs perturbateurs lors de votre retraite. » Je n'avais pas bien compris, parce que moi j'entrais en retraite justement avec une espèce de bazooka, et dès que les facteurs perturbateurs allaient s'élever dans l'esprit, blaf, fallait que je les descende, quoi. Et cette attitude par rapport aux facteurs perturbateurs, fait que nous sommes en conflit continuellement, en tension intérieure continuelle avec l'apparition de ces facteurs perturbateurs. Et ces facteurs perturbateurs, ils s'élèvent à partir des tendances de l'esprit. C'est un mode de fonctionnement qui fait que, on a toujours eu tendance à aborder ou à réagir de cette façon-là lorsque tel élément, on est en contact avec tel élément, avec tel phénomène, etc. Donc il faut observer tout ce qui s'élève dans l'esprit, et noter, prendre conscience que la nature de ce qui s'élève, aussi bien de ce qui nous est agréable ou positif que ce qui nous est désagréable et négatif, tous ces phénomènes ont la même nature, à savoir ils sont tous impermanents. Ils ont tous eu un début et ils auront une fin. Ils s'élèvent à partir de multiples causes et conditions, c'est-à-dire il y a tout un ensemble de facteurs qui leur permettent de s'élever, sans lesquels ils ne s'élèveraient pas. Et tous fonctionnent de cette façon. En fait, tout ce qui traverse l'esprit, ce n'est que du mouvement. C'est ce qu'on appelle la dynamique de l'esprit. Et ce n'est que du mouvement. Et ce mouvement n'a pas la nature de demeurer dans l'esprit, de s'arrêter, de faire une pause. Ils sont pas là en train de se dire, oh tiens, c'est sympa, je vais rester ici, tiens, 10 minutes, et puis je vais rester là. Quoi. Si nous avons l'impression que notre colère, notre jalousie, ou que sais-je, demeure dans notre esprit, c'est parce que c'est nous qui retenons ces éléments-là. C'est nous qui les solidifions, qui les fixons. Et même lorsque nous avons des pensées, on a l'impression quelquefois, vous savez, de toujours avoir une pensée qui est constamment présente et qui est tellement présente que ça peut nous empêcher de dormir. En fait, ce n'est qu'une pensée qui traverse l'esprit et qui disparaît, et aussitôt il y en a une autre qui s'élève, mais qui s'élève à partir du même terrain, on va dire. Et donc qui ressemble fortement à la pensée précédente. Et ça nous donne l'illusion, ça nous donne l'impression, eh bien, que c'est toujours la même pensée qui tourne. Mais en fait, c'est toujours un flux de pensées, un flot de pensées, une succession de pensées. Donc ce n'est que du mouvement. Et en fait, on ne peut pas retenir ce mouvement-là. Et c'est bien parce que c'est contre nature que de retenir ce mouvement, ou de le fixer, ou de le solidifier, que lorsqu'il y a cette solidification ou cette fixation, eh bien, il y a la troisième caractéristique qui apparaît. C'est la perturbation de l'esprit. L'esprit est perturbé. C'est ce qu'on appelle en sanskrit dukkha. Il y a immédiatement insatisfaction, frustration, mal-être, angoisse, douleur, souffrance, etc. Et ça, c'est en fait parce que nous fixons les choses. Et nous avons toujours eu tendance à fixer les choses, à solidifier les choses. Donc on a beaucoup de mal à laisser passer. Et quand on aborde ce sujet, beaucoup de personnes disent, mais être conscient, est-ce que ce n'est pas déjà fixer ou solidifier ce qui apparaît dans l'esprit? Non. Être conscient, c'est une des qualités de l'esprit. La conscience, c'est l'esprit. Donc il y a cet aspect connaissance à l'esprit. Et le fait de reconnaître qu'il y a telle pensée, tel facteur mental qui se développe dans l'esprit, ce n'est pas synonyme de saisir ou de fixer ce facteur mental ou cette pensée. Et je précise maintenant, quand je dis saisir, je précise fixer, parce que dernièrement j'étais avec un ami, pendant 2 heures on a discuté de ça, et il me dit, mais non, moi, pas du tout bouddhiste le mec, mais... Il me dit, non, moi ce qui est important, il faut que je saisisse ce qui se passe dans l'esprit. Et au bout de 2 heures, on s'est rendu compte qu'on ne mettait pas le même sens au terme saisir. Lui, saisir, c'était comprendre. Donc pour lui, c'était vraiment important de comprendre ce qui s'élevait dans l'esprit. Et moi je disais, non, surtout ne saisis rien, quoi. Voilà. Donc au bout de 2 heures, il me dit, mais est-ce que tu veux dire saisir? Est-ce que c'est synonyme pour toi de fixer les choses? Ah ben oui, tout à fait. Donc là on était d'accord, quoi. Hein? Voilà. Mais donc le Bouddha a enseigné qu'il faut observer tout ce qui se présente. Et tout ce qui se présente, quand est-ce que ça se présente? Ça ne va pas se présenter dans l'esprit demain ou après-demain. Et ça ne peut pas se présenter dans l'esprit hier ou avant-hier. Ça ne peut s'élever, ça ne peut se présenter dans l'esprit que dans l'instant présent. Alors ça, c'est un autre élément. Alors vraiment, vraiment, vraiment important et primordial, quoi. La méditation, rappelez-vous ce qu'Ajahn Chah disait dans le premier chapitre, la méditation sert à être présent et conscient, et pas à autre chose. et on ne peut être présent et conscient que de l'instant présent. Et ça, c'est vraiment à se rappeler, surtout pour les pratiquants du Vajrayana qui sont dans des pratiques de Yidam où il faut réciter des millions de mantras, ou qui sont dans les pratiques des préliminaires où il faut répéter telle pratique 100 000 fois, par exemple. Trop de personnes en Occident pratiquent ces caractéristiques du bouddhisme tibétain, du Vajrayana, qui s'appuie sur les visualisations, sur les récitations de mantras, en comprenant ou en envisageant que lorsqu'ils auront fait 100 000 prosternes, ou lorsqu'ils auront récité 1 million de fois tel mantra, alors il se produira quelque chose dans l'esprit de l'ordre de la compréhension de la nature de l'esprit. C'est faux, faux, faux et archi faux. Ça ne marche pas comme ça. La compréhension de la nature de l'esprit ne peut se faire que dans l'instant présent. Si je rate l'instant présent, si je ne fais pas l'expérience de la nature de ce qui s'élève dans l'instant présent, cet instant est terminé, il est passé. Je ne peux plus rien en faire. Ça n'existe plus. Mais l'instant qui va arriver, actuellement, n'existe pas encore. Et même si cette expérience de la nature de l'esprit va se faire dans 10 ans, quand elle se fera, ça sera l'instant présent. Ça ne peut pas se faire dans le futur comme ça ne peut pas se faire dans le passé. Alors pourquoi les Tibétains demandent à ce qu'on fasse 100 000 fois telle pratique ou 1 million de fois la récitation de tel mantra? Parce que si nous comprenons la nature de ce qui s'élève dans l'instant présent, et que nous renouvelons cette expérience de reconnaissance 1 million de fois, ou 100 000 fois, eh bien ça risque fort de stabiliser cette expérience. Mais il faut voir toutes ces pratiques comme des moyens qui nous permettent de replacer notre esprit dans la conscience de l'instant présent. Si vous allez dans un dojo zen, Soto, de l'école Soto, les moyens qu'ils utilisent, c'est de vous mettre en face d'un mur blanc. Dans la méthode japonaise, pour le zen Soto, eh bien, c'est un moyen pour éviter toute distraction, de façon à ce que vous replaciez votre esprit dans l'expérience de l'instant présent. Dans le zen Rinzai, ça va être, par exemple, l'utilisation des koans comme moyen. Dans le bouddhisme tibétain, c'est des visualisations, des récitations de mantras, etc. Mais ce ne sont que des moyens. Et tous les moyens, quelle que soit l'école dans laquelle on se trouve, ne sont que des moyens pour replacer l'esprit dans la conscience de l'instant présent. La seule réalité que nous puissions vivre, c'est l'instant présent. Ce que nous avons vécu tout à l'heure, ça laisse peut-être des traces, d'accord, dans notre esprit, mais ce que nous avons vécu tout à l'heure, c'est terminé. Est-ce que nous allons vivre demain? Eh bien, ça n'est pas encore là. La seule réalité, c'est l'instant présent. Donc, la libération, elle ne peut se faire que dans l'instant présent. Comme la confusion ne peut se faire que dans l'instant présent aussi. C'est soit on saisit ce qui se passe dans l'instant présent, et alors là, c'est la confusion, c'est ce qu'on appelle le samsara. Soit on ne saisit pas, et c'est la libération, c'est ce qu'on appelle le nirvana. Mais ces deux notions ne sont que deux mots qui définissent le fonctionnement de l'esprit, lequel fonctionnement de l'esprit ne peut être que dans l'instant présent. Alors, ceux qui, par exemple, font les préliminaires, tout à fait en gardant l'esprit totalement dispersé, distrait, mais qui se disent de toute façon, quand j'aurai fait 100 000 fois telle pratique, il va quand même se développer une compréhension de la nature de l'esprit. Ben, je pense que on peut en faire, hein, les prosternes, et on peut en réciter des mantras si on considère la pratique de cette façon-là. Et c'est vraiment important de comprendre que la pratique méditative, ça concerne l'instant présent. Parce que beaucoup de personnes qui n'ont pas les conditions aujourd'hui de vivre dans un centre ou de vivre dans un centre de retraite ou de s'isoler du monde pour méditer 14 heures par jour, alors estiment qu'elles n'ont pas la possibilité vraiment de, comment dire, de faire naître cette expérience de libération. Adaptez votre pratique à vos conditions de vie. Si vous n'avez pas les conditions pour aller vivre dans une grotte, eh ben oui, vous n'avez pas les conditions pour aller vivre dans une grotte. Si vous devez vivre dans le monde parce que vous avez une famille, parce que vous avez une situation professionnelle, etc., vivez dans le monde. Mais adaptez votre pratique spirituelle à votre façon de vivre. Et votre façon de méditer dans le monde, c'est d'être présent, dans l'instant présent, quoi que vous fassiez. Et Ajahn Chah enseigne beaucoup cela. Il dit, on peut être présent, on peut être conscient de ce qui se passe dans notre esprit, que l'on soit assis, couché, en train de marcher, en train de faire la vaisselle, en train de conduire sa voiture, etc. Et bien sûr que ça demande une vigilance. Et que si certains jours on a vraiment un peu la tête dans le guidon et qu'on n'a pas pu développer cette vigilance au cours de notre activité quotidienne, là il faut savoir que le remède pour retrouver cette vigilance, pour affermir cette vigilance, c'est le coussin. Et il faut se dire, eh ben là j'ai besoin peut-être de retrouver mon coussin et de méditer une demi-heure. Demain, il faut que je trouve une demi-heure pour réinstaller cette vigilance dans mon esprit. Mais cette vigilance qui s'installe dans l'esprit, elle doit être présente, mais quoi que l'on fasse. Vous avez des personnes qui, parce qu'elles méditent une demi-heure par jour, alors laissent leur esprit faire absolument ce qu'il veut pendant 23h30. Mais c'est pas ça le but de la pratique. Le but de la pratique, c'est de s'efforcer d'être vigilant à chaque instant. Et ça demande évidemment un entraînement. Mais je pense qu'une personne qui a une activité professionnelle dans le monde, etc., et qui s'efforce d'être consciente de ce qui se passe à chaque instant au cours de la journée, elle médite peut-être davantage que certaines personnes qui sont dans des centres de retraite et qui se contentent de roupiller. C'est pas une garantie d'aller dans une grotte ou d'aller dans un centre de retraite. C'est pas une garantie de pratique. La garantie de pratique, c'est que se passe-t-il là maintenant dans mon esprit? Qu'est-ce que les conditions, la situation, ça fait émerger comme expérience dans mon esprit? Est-ce que j'en suis conscient et est-ce que je lâche ce qui émerge dans mon esprit? Ajahn Chah continue en disant « Les choses ne durent pas ». Alors en fait, tout cet enseignement va porter sur la reconnaissance de l'impermanence de ce qui s'élève dans l'esprit. « Les choses ne durent pas. Après s'être manifestées, elles cessent. Ayant cessé, elles apparaissent à nouveau. Puis ayant apparu, elles cessent encore. Mais quelqu'un dont l'esprit est confus et qui n'a pas la connaissance ne veut pas qu'il en soit ainsi. » Et ça, c'est voilà une autre difficulté. Nous avons la tendance, en fait, à solidifier les choses, surtout à solidifier les choses qui nous sont agréables. On voudrait bien que tout ce qui nous est agréable, eh bien, dure le plus longtemps possible. Et quand ça ne dure pas, on essaie de retrouver cette expérience-là, on essaie de la prolonger, etc. On est plus d'accord pour reconnaître l'impermanence de nos souffrances et de tout ce qui ne va pas dans nos situations et dans ce que l'on peut éprouver au niveau de l'esprit. Mais tout est de cette nature impermanente, instable, continuellement changeante. Et c'est vrai que quand on réfléchit sur l'impermanence, au lieu de ne porter sa réflexion uniquement sur notre propre impermanence, c'est-à-dire sur notre mort, sur le fait que les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui, eh bien, on les aura peut-être plus demain ou dans 8 jours. Il vaudrait, je trouve, plus fin de porter cette réflexion sur l'instabilité, sur le changement continuel de absolument chaque chose, et surtout de ce qui se passe dans notre esprit. Notre propre impermanence, on sait tous que nous sommes mortels. Mais ce soir ici, tout le monde est persuadé à 99% de passer Noël. Non ? Si. Même si, avec la réflexion, on se dit « oui, je peux me planter en voiture demain, je peux faire une crise cardiaque, etc. » Mais personne vraiment est persuadé que sa vie peut s'arrêter là, maintenant. On le sait, mais on le sait, voilà, avec notre tête, mais c'est pas plus que ça. Par contre, vérifier, prendre vraiment conscience, avoir l'expérience que ce qui s'élève dans notre esprit, ça ne fait que passer, ce n'est que du mouvement. Et que si je ne saisis pas ce qui s'élève, ça n'a pas la possibilité de perturber l'esprit, de faire souffrir l'esprit. Ça, c'est une reconnaissance de l'impermanence qui nous guide, qui est une porte à la vacuité, qui est une porte pour comprendre ce concept si important, cette notion si importante dans le bouddhisme de vacuité, c'est-à-dire vide d'existence propre. Il faut faire cette expérience. Il faut absolument pratiquer et que par cette observation de ce qui s'élève dans l'esprit, si je ne saisis pas la pensée qui traverse l'esprit, elle s'évanouit immédiatement et l'esprit ne peut pas être en aucun cas perturbé par la présence de cette pensée. Quand on arrive à constater cela, à faire cette expérience, alors on voit, on constate, on fait l'expérience que c'est la saisie qui nous fait souffrir. Et toute notre pratique ensuite se porte continuellement sur le déracinement de cette saisie égotique, sur le fait de solidifier les choses. Et là, la pratique va peut-être un peu plus vite, un peu plus profondément, parce qu'elle touche constamment la racine. Cette saisie, c'est ce qu'il faut déraciner. Et comprendre que ce qui s'élève ne peut pas être fixé, ne peut pas être saisi parce que c'est de nature totalement impermanente, eh bien ça aide à ce fonctionnement de tout solidifier, à se relâcher. Et ça demande évidemment un entraînement, on ne va pas y arriver parce qu'on comprend le système, on ne va pas y arriver là comme ça spontanément. Ça demande un entraînement. Et puis il y a des saisies eh bien, qui ne sont pas du domaine conscient, qui sont vraiment mises en place par les tendances de l'esprit. Et ça, c'est beaucoup plus subtil comme forme de saisie. Mais plus on arrive à expérimenter cette non-saisie, plus la saisie subtile va aussi se relâcher et se purifier. Et il faut commencer sur les saisies grossières. Il faut faire l'expérience que si vous avez une pensée qui semble vous déranger, vous perturber, et je dis pas forcément vous faire souffrir, mais qui vous perturbe, qui fait naître un mal-être, une insatisfaction, une frustration par exemple. Observez cette pensée, acceptez d'avoir cette pensée, et voyez que parce qu'elle est impermanente, eh bien elle ne fait que passer, laissez-la passer. Immédiatement, votre esprit se calme et s'apaise. Et il faut faire le lien, la relation entre ce calme et cette paix de l'esprit et le fait de ne pas saisir ce mouvement qui s'élève et qu'on appelle dans ce cas-là une pensée. Quand nous méditons et que l'esprit s'apaise, nous voulons demeurer ainsi sans être dérangés. Mais ce n'est pas réaliste. Le Bouddha nous a recommandé de regarder d'abord les faits et de voir combien ces choses sont trompeuses. Alors les choses ne sont pas trompeuses par nature, elles sont trompeuses par la perception qu'on en a. C'est-à-dire que rien n'est de la nature, ou disons autrement, la nature des phénomènes, des choses, ne correspond pas à la perception qu'on a de ces phénomènes et de ces choses. Hein ? Ça, c'est parce que les perceptions que l'on a, elles sont liées au conditionnement de notre esprit. Alors, à l'us, ils vont dire que je rabâche, parce que je prends toujours le même exemple, mais le coucher de soleil, est-ce que c'est quelque chose de beau? La plupart des gens ici vont dire, ouais, un coucher de soleil, j'apprécie, je trouve ça beau. Les Tibétains, par exemple, n'aiment pas forcément les couchers de soleil. Ça évoque plutôt autre chose pour eux. Tristesse, nostalgie, etc. Mais alors, est-ce qu'un coucher de soleil c'est beau, pas beau, moyennement beau? Et comment vous percevez un coucher de soleil si on vient de vous apprendre une terrible nouvelle? Et comment vous appréciez le soleil si vous venez de rencontrer votre femme ou votre ou l'homme de votre vie? Alors, c'est beau, c'est pas beau un coucher de soleil? C'est en fonction de notre culture, c'est en fonction de l'état de notre esprit dans lequel il se trouve à ce moment-là, c'est en fonction des conditionnements de notre esprit, mais cette perception, elle ne désigne pas la nature même d'un coucher de soleil. Si la nature d'un coucher de soleil, c'était d'être beau, eh bien, ma foi, tout le monde verrait beau un coucher de soleil. Et ça, c'est important de comprendre ça, parce que combien on a tendance à asséner nos valeurs de façon absolue. Et il suffit de faire 8-10 heures d'avion pour voir que les valeurs qui nous sont si absolues, si définitives, eh bien, si on ne les a pas laissées à l'aéroport du départ, quand on arrive, par exemple, ne serait-ce qu'en Inde, hein, eh bien, ces valeurs-là, elles n'ont plus de place. Et elles sont confrontées à d'autres valeurs qui sont tout aussi absolues, fixées, solidifiées, etc. Mais pour montrer que nos valeurs ne peuvent être que relatives, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir, hein. Mais il ne faut pas les considérer comme absolues et les maintenir comme quelque chose de définitif. Parce qu'elles sont liées au conditionnement de notre esprit, de notre culture, de notre éducation, etc. Quand nous ne connaissons pas les choses telles qu'elles sont, nous croyons les posséder, et le piège du sentiment de soi fait surface. Nous devons donc remonter à l'origine et découvrir comment cela s'est produit. Il faut que nous comprenions comment les choses sont en réalité, comment elles entrent en contact avec l'esprit et comment l'esprit réagit. Après, nous pourrons être en paix. Voilà ce que nous devons étudier à fond. Si nous refusons que les choses se passent comme elles se passent, nous ne pouvons pas connaître la paix. Et ça, c'est l'enseignement direct du Bouddha. Le Bouddha n'a pas enseigné pour nous faire plaisir. Il n'a pas enseigné pour nous caresser l'ego dans le sens du poil. Il nous a enseigné pour qu'on voit les choses telles qu'elles sont, pour nous mettre face à la réalité, et non plus pour croire que les choses sont telles que je crois qu'elles sont. Il faut qu'on se déprogramme, qu'on se déstructure, et qu'on voit les choses telles qu'elles sont. Tous les enseignements du Bouddha portent là-dessus. C'est une vue réaliste, voir les choses réellement, telles qu'elles sont. Il ne nous présente pas la nature des choses de façon enjolivée, pour nous faire plaisir, ou hein, pas du tout. C'est peut-être frustrant dans un premier temps d'apprendre ou de constater que la réalité des choses ne correspond pas à ce qu'on voudrait qu'elle soit. Mais je pense que toute la voie du Dharma, toute la pratique du Dharma, toute la pratique bouddhiste, eh bien, c'est de nous amener à faire face aux événements, à faire face aux situations, à faire face à ce que vit notre esprit. Et arrêter de s'illusionner par rapport à notre perception des situations et des événements et de nous-mêmes. Donc si nous refusons que les choses se passent comme elles se passent, nous ne pouvons pas connaître la paix. Ou que nous tentions de nous échapper, les choses se produisent toujours de la même manière. C'est leur nature. En termes simples, ceci est la vérité. L'impermanence, la souffrance et l'absence de soi sont la nature même des phénomènes. Ils ne sont rien d'autre que cela. Mais nous donnons aux choses bien plus de sens qu'elles n'en ont en réalité. Et Ajahn Chah poursuit en disant, il n'est pas vraiment si difficile de permettre à la sagesse d'émerger. Et alors ça, quand on lit cette phrase, en général, les gens qui... Tout le monde lève les yeux au ciel, tout le monde se dit, si, pour moi, c'est difficile de permettre à la sagesse d'émerger. Non, je crois que de voir les choses telles qu'elles sont dans l'instant présent, eh bien, c'est ça qui va permettre à la sagesse d'émerger. Il faut faire cette expérience-là. Il faut s'entraîner. Et on verra que, ben, effectivement, la sagesse, c'est quoi ? C'est comprendre la nature de toute chose, et que par cette compréhension-là, eh bien, on se libère de dukkha, on se libère de toute forme de souffrance. Donc faisons cette expérience et voyons que s'il n'y a pas saisi, eh bien, que vit l'esprit ? Comment est notre esprit ? Et on verra à ce moment-là qu'il reste calme, paisible et tranquille. C'est pas si difficile à expérimenter. Et je répète, ça ne va pas s'expérimenter parce que quand nous aurons récité 1 million de mantras. Ça ne peut se faire que là, tout de suite, dans l'instant présent. Hein. Alors, il n'est pas vraiment si difficile de permettre à la sagesse d'émerger, il s'agit simplement de chercher les causes et de comprendre la nature des choses, dit Ajahn Chah. Quand votre esprit est agité, vous pouvez vous dire « cet état n'est pas certain, tout est impermanent ». Mais quand l'esprit est calme, ne vous dites pas « oh, c'est vraiment la paix », parce que cela non plus n'est pas certain. Si on vous demande quel type de nourriture préférez-vous, ne prenez pas la question trop au sérieux. Si vous dites que vous aimez vraiment quelque chose, mais quelle importance ? Réfléchissez. Si vous en mangiez tous les jours, l'aimeriez-vous toujours autant ? Vous en viendriez probablement à dire « Oh non, pas encore ça ». Vous comprenez, on peut finir par se rendre malade précisément avec ce que l'on croyait aimer, et cela à cause de la nature changeante de toute chose. Voilà ce qu'il vous faut découvrir. Le plaisir est incertain, le malheur est incertain, l'amour est incertain, la tranquillité est incertaine, l'agitation est incertaine. Tout, absolument tout, est incertain. Alors c'est sûr que ce type d'enseignement, que ce genre d'enseignement, ça ne nous élève pas de 2 mètres au-dessus de notre siège. On a même tendance à dire, c'est pas très transcendant, jouissif, hein, de se dire que tout est incertain, hein, la tranquillité est incertaine, l'agitation est incertaine, etc. Ben oui, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le Bouddha n'enseigne pas pour qu'on trouve tout beau. Il enseigne pour qu'on expérimente exactement les choses telles qu'elles sont. Si on parle autant d'impermanence dans le bouddhisme, c'est qu'il y a quelque chose quand même qu'il faut comprendre. Et je crois que cette impermanence, c'est une des clés de la réalisation. L'illusion ou la confusion de l'esprit, elle est due au fait d'attribuer une entité à soi-même et au phénomène. Si une telle entité existait, aussi bien pour les individus que pour les phénomènes, eh bien, si elle était permanente, autonome et unique, eh bien, elle ne serait donc pas, par définition, impermanente. Or, on ne trouve rien qui ne soit pas de cette nature impermanente. C'est ce qui montre, c'est une des portes pour la compréhension que tout est vide d'existence propre. Hein? Le deuxième élément étant l'interdépendance. Ceux qui étaient à Saint-Dié hier soir, au film de Stan Zinn, eh bien, tout le film a parlé constamment de l'interdépendance. On a bien vu comment l'attitude des êtres dans le monde et pas seulement en Inde ou au Ladakh, mais l'attitude des êtres dans le monde, fait qu'il y a des répercussions, et notamment qu'il y a des répercussions au Ladakh, avec tout ce que ça entraîne comme catastrophe et souffrance. Seulement ça se passe à 10 000 km, donc on ne voit pas forcément le lien entre notre attitude et l'effet que ça provoque à 10 000 km. Mais cet effet-là, eh bien, il est bien provoqué quand même par l'ensemble des humains et de leur façon de vivre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre une seule seconde sans se sentir interdépendant et sans sentir que notre existence est liée à l'existence des autres humains, à l'existence de la planète, à l'existence de la nature, etc. Mais cette notion d'interdépendance, eh bien, c'est la deuxième clé pour comprendre qu'il n'y a rien qui peut exister en soi et par soi-même. Donc c'est à nouveau une clé pour comprendre la notion de vacuité dans le bouddhisme, c'est-à-dire vide d'existence propre. Et c'est pourquoi l'impermanence ou l'interdépendance sont des sujets aussi souvent abordés dans les enseignements du Dharma. L'impermanence signifie que les choses ne sont pas figées, ne sont pas stables. Et en termes très simples, cette vérité est le Bouddha. Anicca, c'est-à-dire l'incertitude, est la vérité. La vérité est là sous nos yeux, mais nous ne lui accordons pas un regard clair et direct. Le Bouddha a dit « Ceux qui voient le Dharma me voient ». Si nous voyons Anicca, c'est-à-dire cette qualité d'incertitude en toute chose, alors apparaîtra le détachement par rapport au monde. Alors ça, c'est une deuxième notion qu'il faut développer quand on parle de détachement. Parce que le détachement, de façon générale, on voit le détachement comme une cause de souffrance. Il faut que je me détache de ça. Alors, ça va saigner. On va tirer ça, il faut que je me détache, ça va faire mal, etc. Or, quand on est attaché, quand on est lié par des liens, par des cordes, etc., qu'est-ce qu'on a envie de faire? Se libérer de tout ça. Pourquoi? Parce que on manque de liberté. Donc détachement est peut-être bien synonyme de libération. Alors ça, c'est une autre expérience à faire. Il faut voir que c'est notre attachement qui nous fait souffrir. Ce n'est pas vraiment la situation elle-même qui nous fait souffrir. Mais c'est le fait d'être attaché à cette situation. Et quand on parle d'attachement, ne réfléchissez pas d'emblée et tout de suite sur l'attachement que vous avez pour vos enfants, pour ceux qui ont des enfants. Dans le monde humain, l'attachement, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Moi, je n'ai pas d'enfants, mais je pense que quand on a des enfants, l'attachement fait quelque chose de vraiment très fort. Alors avant de travailler sur cet attachement vis-à-vis de nos proches ou vis-à-vis de nos enfants, on peut déjà commencer à travailler sur l'attachement qu'on a vis-à-vis de ses bibelots, vis-à-vis de sa, j'en sais rien moi, de sa voiture, vis-à-vis du personnage que l'on se plaît à être, la reconnaissance que on attend des autres, etc. Pour tout ça, il y a pas mal déjà d'attachement, et là on peut déjà travailler sur ces formes d'attachement. Par exemple, Ajahn Chah prend l'exemple d'un objet auquel on peut être attaché, il prend l'exemple d'un verre. Alors il dit, par exemple, si on vous offre un verre que vous trouvez très beau, vous vous direz peut-être, quel beau verre. Je vais le ranger et en prendre grand soin pour éviter qu'il ne se casse. Mais ajouter ensuite, ce n'est pas certain. Parce qu'il se peut qu'après avoir bu, vous posiez le verre près de vous et que dans un moment d'inattention, vous lui donniez un coup de coude et qu'il se casse. Et s'il ne se casse pas aujourd'hui, il se cassera demain. Et s'il ne se casse pas demain, eh bien, ce sera le jour suivant ou plus tard. Parce que la nature du verre, c'est de toute façon un jour de se casser. Parce que tout est impermanent. Alors bien sûr qu'on peut prendre soin de ce que l'on aime, voilà. Mais on peut en prendre soin sans s'attacher à cela. Et c'est cet attachement qui va nous faire souffrir lorsque cet objet, par exemple, eh bien, va se casser. Alors comme il conclut, ne placez pas votre confiance dans des choses susceptibles de se casser. Et c'est un peu ce qu'on fait à longueur de temps, hein. Rien n'est stable ni permanent. Au contraire, tout change constamment et présente les caractéristiques de l'impermanence, de la souffrance et du non-soi. C'est comme une boule de fer en fusion que l'on aurait mise à chauffer dans un four. Quelle partie sera fraîche? Essayez d'y toucher et vous verrez. Tous les côtés, ils seront brûlants. Pourquoi est-ce brûlant? Parce qu'une boule de métal en fusion est brûlante partout. Quand on comprend cela, on n'y touche pas. Quand vous vous dites à propos de quelque chose, « Oh, comme c'est bon, j'aime ça, je le veux. » N'accordez aucun crédit à ces pensées. Ne les prenez pas trop au sérieux, car elles sont comme la boule de métal en fusion. Quelle que soit la partie que vous touchiez, si vous essayez de la prendre, vous vous brûlerez, vous aurez très mal, votre peau se fendra et vous saignerez. Nous devrions contempler cela à tout moment, quand nous marchons, quand nous sommes debout, assis ou couchés, même quand nous sommes aux toilettes. À tout moment, nous devrions voir que tout ce dont nous faisons l'expérience est instable et impermanent, ainsi qu'insatisfaisant et non personnel. Les choses qui sont instables et impermanentes sont incertaines et sans réalité absolue. Sans exception, elles sont toutes illusoires. Il n'y a rien là qui exige un entraînement difficile. Il n'y a pas besoin de méditer pendant des années et des années, à s'appliquer, à faire telle ou telle pratique pendant des années et des années, et se dire, bah oui, quand j'aurai fini, donc il va se passer quelque chose dans mon esprit. Rappelez-vous, la méditation, c'est dans l'instant présent, et reconnaître la qualité d'impermanence ou la nature d'impermanence de tout ce qui s'élève dans notre esprit dans l'instant présent. Et ça, c'était pas si difficile à faire, c'était pas si difficile à observer. Et comme le rappelle Ajahn-Chah, on peut le faire, en fait, à tout moment de la journée. Donc même si, parce que votre activité vous a empêché aujourd'hui de vous asseoir une demi-heure, ça n'est pas une excuse pour vous dire en fin de journée, ben aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de méditer. Peu importe l'attirance ou le plaisir que l'esprit peut éprouver, rappelez-vous seulement, ce n'est pas sûr, ce n'est pas permanent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas à apprécier ce qui se passe dans l'instant présent, si ce qui se passe provoque une sensation agréable. Hein? Ça ne veut pas dire du tout qu'il ne faut pas apprécier l'instant présent s'il est agréable. Ça, c'est la notion de plaisir. La notion de plaisir, rappelez-vous, la notion de plaisir n'est absolument pas un problème dans le bouddhisme. Ce qui fait souffrir, c'est le désir ou c'est l'attachement au plaisir. Ce n'est pas le plaisir lui-même. Bokha Rinpoche, lors des séminaires, il prenait souvent l'exemple de l'autel. Et je trouve que c'est un très bon exemple parce que parfois on est allé dans un grand hôtel luxueux avec pas mal de confort, etc., personne ne s'attache à ce qui se passe dans un hôtel. Parce que un hôtel, par définition, c'est quelque chose où on ne reste pas, où on ne demeure pas. Et ça, c'est accepté par notre esprit d'emblée. Donc, si vous avez vécu ça, vous avez constaté que dans un hôtel, on apprécie absolument tout ce qu'il y a d'agréable. Mais que on repart 3 jours après, sans frustration et sans regret de quitter un hôtel. Parce que notre esprit ne peut pas s'attacher au fait de descendre dans un hôtel. Ce qui montre bien que c'est l'attachement qui fait souffrir. Et ce qui montre aussi que s'il n'y a pas attachement, eh bien ça n'empêche pas d'apprécier ce qui se passe dans l'instant présent. Et je pense même, et ça il faut en être sûr, il faut observer l'esprit, mais je pense même qu'à ce moment-là, on apprécie à 100%. Et je repense souvent cet exemple, mais quand on est en vacances sous les cocotiers pendant 8 jours, le premier jour, on est vraiment bien, le deuxième jour, c'est encore super bien, mais le troisième jour, c'est toujours bien, mais dans 4 jours, c'est fini. Donc il y a une frustration, pourquoi ? Parce qu'il y a une partie de l'esprit qui est déjà par anticipation à la fin de ce séjour. Alors que le troisième jour, on est en plein dans le séjour et qu'il n'y a rien qui se termine. On verra ça dans le dernier jour. Ce qui montre que, voilà, on ne vit pas les choses à 100%. On les vit à 80% et puis il y a 20% qui vit déjà une espèce de frustration parce que ça va se terminer. Et que si l'on accepte vraiment cette notion d'impermanence, il n'y a pas d'attachement à ce que l'on vit, mais alors on vit à 100% la chose qui se produit tant qu'elle est là. Et puis quand c'est terminé, eh bien, c'est terminé. Et quand on observe les Rinpoché, comment ils vivent l'instant présent, on voit que quand cet instant se termine, eh bien, ça ne laisse pas de traces dans leur esprit. Ils sont totalement libres de la perturbation de l'esprit, de la frustration, de l'insatisfaction quand il y a quelque chose d'agréable qui se termine. Cette impermanence est le véritable dharma. Les choses ne sont ni stables ni réelles. Rien en elles n'est réel. Voilà ce qui est réel. Allez-vous mettre en doute cette évidence ? Mais c'est la chose la plus certaine qui soit. Nous naissons, et puis inévitablement nous vieillissons, tombons malades et mourons. Telle est la réalité permanente et certaine, et cette vérité permanente est née de la vérité de l'impermanence. Quand on étudie les choses en profondeur, à l'aune de ce pas permanent, pas certain, il se produit une transformation en quelque chose de permanent et de certain. Et à partir de là, on cesse de porter les choses, le poids des choses. Ce qui se transforme et ce qui se met en place en termes de permanence en quelque chose de permanent et de certain, c'est cette reconnaissance, cette paix de l'esprit qui reconnaît en tous les phénomènes, à la fois extérieurs et intérieurs, cette nature de l'impermanence. Et cette reconnaissance fait que l'esprit, eh bien, demeure de façon stable en paix et en sérénité. Et c'est ça qui est stable et sûr. Les disciples du Bouddha se sont éveillés à la vérité de l'impermanence. Parce qu'ils ont réalisé l'impermanence de tous les phénomènes, ils ont connu le détachement par rapport aux choses. Et Ajahn Chah explique que ce détachement, ce désintéressement n'est pas de l'aversion. Et ça, il faut bien, bien comprendre ça. Parce que vraiment, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le détachement ou le désintéressement du monde, eh bien, c'est se couper du monde. Ajahn Chah explique que s'il y a aversion, ce n'est pas vraiment du désintéressement et cela ne devient pas une voie. Ce que nous considérons d'ordinaire comme du désintéressement par rapport aux choses de ce monde, la vie de famille par exemple, quand les relations ne sont pas bonnes, peut donner à penser que nous sommes vraiment devenus désenchantés comme il est dit dans les enseignements, mais ce n'est pas le cas. Il ne s'agit dans ce cas que de pollution mentale qui s'accumule et oppresse notre cœur. Quand vous vous dites « j'en ai vraiment assez, je vais tout abandonner », il s'agit d'une lassitude due aux pollutions mentales. Ce qui se passe en réalité, c'est que ces pollutions sont plus fortes maintenant qu'avant que vous ne vous mettiez en tête cette idée de lassitude par rapport aux choses qui vous posent problème. Et beaucoup de personnes pensent que si, quand on parle de désintéressement par rapport au monde, hein, il faut voir ce terme désintéressement, c'est synonyme d'attachement au monde. Les bodhisattvas accomplis, ceux qu'on appelle les Rinpoché, mais ils ne se désintéressent pas du monde. Ils sont complètement impliqués dans le monde. ils font tout ce qu'ils peuvent faire pour soulager la souffrance, pour développer de l'amour, pour développer de la bienveillance, pour apporter quelque chose de positif à des gens qui souffrent, etc. Et, mais tous les bodhisattvas, ils peuvent avoir cette amplitude d'activité parce qu'ils ne sont pas attachés ou intéressés à ce qu'ils font. Ils sont libres. Leur activité est libre. C'est ce qu'on appelle l'activité éveillée. Et on remarque ça chez tous les bodhisattvas, pas seulement ceux qui ont une étiquette bouddhiste sur le front. Et il y a même des personnes qui n'ont pas du tout d'étiquette et qui ont cette activité altruiste et sans limite. Regardez, par exemple, il y a des personnes ici qui connaissent Ama, cette femme indienne qui, depuis 25 ans, son activité, c'est d'embrasser les gens. Il faut faire 4 heures, 5 heures de queue pour être embrassé par Ama. Vous pensez que s'il y avait une saisie gothique dans son esprit, elle pourrait embrasser pendant 5 heures, 6 heures, tous les jours, des milliers de personnes. Puis vous savez, elle les embrasse pas du bout du nez, hein. Elle les prend dans ses bras, hein. Puis elle leur dit même quelque chose à l'oreille, pour ceux qui souffrent, etc. Cette qualité de compassion, cette qualité d'attention, d'amour, etc. Elle est tellement puissante, tellement vaste, qu'elle ne peut être que vaste et puissante parce que il n'y a plus de saisie égotique, il n'y a plus de solidification, etc. Ça montre bien que cette puissance dans l'expression ou le développement de ces qualités que nous avons tous, hein, eh bien, cette puissance ne peut devenir puissante que par la disparition de la saisie égotique. Tout le monde est sûr d'avoir cette puissance d'amour en soi? Cherchez-la, hein. Mais tout le monde l'a. Et pour reprendre l'exemple de ceux qui ont des enfants, je pense que si votre enfant est vraiment très malade et que vous voyez souffrir votre enfant, et à un moment donné, c'est pas votre tête qui va parler, c'est vos tripes. Et vous allez vous dire à un moment donné, puissais-je moi souffrir, mais que mon gosse ne souffre plus, quoi. Ben ça prouve, ça montre, ça touche la puissance de l'amour, la puissance de la compassion. Et nous avons tous cette puissance-là. Un bodhisattva qui n'a plus de saisie égotique, il vit ses qualités avec cette intensité à longueur de journée. Aujourd'hui, pour nous, ça nous est difficile d'imaginer qu'on peut vivre ces qualités d'amour, de compassion avec autant de puissance. Pourtant, cette potentialité est en nous, elle est présente. Alors, qu'est-ce qui la freine? Qu'est-ce qui empêche son développement? La saisie. On a la clé, hein? Il faut travailler là-dessus. Parce que bon, là, après, il y a encore une page où il ne parle que de l'impermanence. Donc, le mois prochain, on verra la non-réalité intrinsèque des phénomènes, hein, la deuxième caractéristique des phénomènes, comment Ajahn-Chah nous permet de mieux comprendre que les choses, eh bien, n'ont pas d'existence propre, hein, mais ce qu'il faudrait s'entraîner pendant ce mois, c'est d'une part d'être attentif à ce qui se passe dans l'instant présent. Alors, quand on dit ce qui se passe dans l'instant présent, ce n'est pas une concentration en termes de « je suis très concentré sur ce que je suis en train de faire ». Vous avez des personnes qui ont une activité artistique, par exemple, et qui disent « tiens, quand je peins, je ne pense à rien d'autre, je suis donc vraiment très concentré ». Mais ça, c'est chiné. Ça, c'est le calme mental. Ça, c'est la non-distraction. Il faut ajouter à cela la sagesse, c'est-à-dire la vision pénétrante, l'actong. Et dans cet exemple, la vision pénétrante serait de, tout en étant concentré sur une chose, mais que se passe-t-il dans mon esprit? Qu'est-ce que ça fait naître comme expérience ou comme élément ou comme facteur mental dans mon esprit? Et ne en être conscient, mais ne pas solidifier ou ne pas cristalliser ces expériences qui naissent dans l'esprit. Et à ce moment-là, c'est vraiment l'union de Shiné, le calme mental, et de l'actong, de la vision pénétrante. Et c'est là où l'expérience peut s'élever, et cette expérience, eh bien, c'est ce qu'on appelle le Mahamudra, c'est-à-dire la reconnaissance de la nature de ce qui s'élève, en d'autres termes, l'éveil. Et si nous avons cette expérience-là pendant une seconde, eh bien, ce n'est qu'une expérience qui ne va durer qu'une seconde, mais nous sommes Bouddha une seconde. Et après, c'est par l'entraînement de la pratique, par l'entraînement de la reconnaissance de la nature de ce qui s'élève, que par cet entraînement, eh bien, on va stabiliser petit à petit cette expérience. Et lorsqu'elle deviendra vraiment stable, eh bien, cette expérience ne sera plus une expérience, ça sera une réalisation. Mais l'expérience ne peut se faire que dans l'instant présent. Des questions?
La prise de conscience de l'impermanence, si on reparle du film d'hier ou autre, entraîne pour ma part de la souffrance. Est-ce que j'ai de plus en plus conscience de l'interdépendance de tout ce qu'il y a autour et de tout le mal qui peut en découler, de tout ce qui ne va pas, et je ne vois plus le monde de la même façon, mais il y a une souffrance qui arrive là derrière.
Par rapport à vous, par rapport aux autres,
tout ce qui ne va pas, tout ce qui... Ah, si on parle de hier, ben, quand je mets ma voiture en rouge, oui, mais ce que je fais là en ce moment, ça peut avoir des conséquences, donc je réalise davantage et...
Oui, mais c'est bien d'être conscient. Alors bien sûr, on vit dans un monde et on va pas ressortir les diligences demain parce que les voitures ça pollue. Voilà. Mais ça peut nous amener à faire des choix pour restreindre peut-être notre façon de vivre qui jusqu'à présent ne prenait pas vraiment en compte cette notion d'interdépendance ou peut-être pas suffisamment. Mais dans ce genre de prise de conscience, on se rend compte en fait que c'est l'ignorance qui est cause de souffrance. C'est pas la conscience de l'impermanence ou la conscience de l'interdépendance. C'est la conscience que si nous ne sommes pas conscients de ces notions-là, on ne fait qu'aggraver les problèmes dans le monde. Alors après, bien sûr qu'on ne va pas faire de révolution. Mais à chacun à son niveau, il peut peut-être voir ce qu'il peut modifier dans sa façon d'être, dans son comportement, etc. Si tout le monde prenait conscience de cela, et si tout le monde pouvait décider dans son quotidien, eh bien, de transformer un peu sa façon de vivre pour des économies, pour être moins comme ça, gaspillé, etc., ça ira peut-être mieux. Mais c'est une attitude que chacun doit faire à partir d'une prise de conscience individuelle. Quand on voit le problème de l'eau, par exemple, dans certains pays, et comment nous, on agit avec l'eau, quoi. Etc., etc. C'est des prises de conscience de phénomènes de vie, quoi. Dans le film, c'était marrant parce que il disait, là, il y avait un moine qui disait « Oui, maintenant, on a l'impression de découvrir l'écologie. Hein? » Mais il disait « Mais le Bouddha a déjà enseigné l'écologie, quoi. » Par cette notion d'interdépendance.
J'ai une autre question.
Oui.
Par rapport au, à ce que vous disiez à la fin sur le calme de l'esprit, avec l'exemple du peintre ou de l'artiste, et ce que vous appelez l'actant, du coup, j'ai le sentiment que si je pense à ma vie quotidienne, à mes activités, j'entends bien que lorsque je suis concentré, mon esprit est calme. Mais si j'y associe le fait de, d'observer ce qui émerge dans mon esprit à ce moment-là, l'activité que j'entreprends va s'en trouver... Enfin, je vais la laisser tomber un peu, quoi. Et du coup, ça peut, c'est un peu difficile, je trouve.
Mais vous croyez vraiment que on peut pas avoir faire deux choses en même temps? On est constamment en train de faire deux choses en même temps. Même quand, par exemple, on est là en train d'écouter ou de parler, etc., il y a une partie de l'esprit, mais qui pense peut-être à ce qu'on a fait hier, à ce qu'on va faire demain, etc. Et ça n'empêche pas non plus d'être, d'être présent ici et maintenant. Quand on est concentré pour conduire sa voiture, on fait plein de choses associées à cette concentration. Donc non, c'est possible d'être vraiment concentré, mais d'avoir une partie de l'esprit qui sait ce qui se passe en lui-même. Ça, c'est possible. Alors bien sûr que ce genre d'exercice au début, ça peut fatiguer l'esprit. S'il n'est pas habitué à faire cet exercice, ça peut demander un effort. Et à ce moment-là, ben, l'esprit se fatigue. Donc il ne faut pas le faire au début à longueur de journée, parce que notre esprit risque de devenir un peu une cocotte minute, quoi. Mais la méditation, c'est méditer veut dire entraîner l'esprit. Donc c'est l'entraînement de l'esprit qui fait que l'esprit s'assouplit et que cette qualité non seulement de vigilance ou de concentration, mais cette qualité aussi de conscience, ça va s'installer petit à petit naturellement dans l'esprit et sans aucun effort. Mais voilà pourquoi c'est si important de la répétition ou de l'entraînement de l'esprit ou de la répétition de la méditation, de la régularité de la méditation. Je prends souvent cet exemple, mais c'est comme faire ses gammes pour la musique ou son entraînement sportif si on veut avoir des résultats ou un développement dans telle activité sportive. On continue autour d'une tasse de thé alors ? Merci.
Merci. Merci.